Bonjour mes frères et sœurs. Je vais commencer, avant d'ouvrir le Saint-Livre, par un témoignage qui nous montre l'importance de la sensibilité. Cette semaine, avec mon époux, nous avons mangé à 2 heures de route d'ici avec un monsieur de 84 ans qui s'est converti avec un CD de l'église d'ici. Et cet homme, voyez, il est paysan et il est parti sur son tracteur et il avait à cœur de témoigner à un frère. Enfin, pas un frère, un croyant. Et il a pris un mot, il a parlé sur le ciel et sur l'enfer. Et sur son tracteur, il a croisé cet homme dans le village. Et il lui a dit, tu sais, tu devrais réfléchir. Parce qu'il y a le ciel, mais il y a aussi l'enfer. Et bien sûr, cet homme s'est moqué de lui. Il lui a parlé de Jésus. Et 15 jours après, cet homme est décédé. Et cet homme de 84 ans était ému d'avoir été vraiment ramené à la vie, voyez. C'est beau quand vous voyez ça, non? Et c'est un monsieur qui voyez, qui ne viendra certainement jamais ici, qui est loin d'ici, et qui pourtant, sur un tracteur, s'est converti. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pourrais vous donner d'autres témoignages, je vous dis ça surtout pour que vous puissiez prier pour le site, car nous ne nous rendons pas compte à quel point Dieu utilise le site de l'Assemblée pour sauver des âmes. Alors, je vais m'autoriser à recommencer aujourd'hui avec un verset qui est adressé au pasteur. Je vous le dis parce que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas l'état des églises. Regardez ce reproche que Jésus fait à des pasteurs. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, et au verset 52, je vous dis ça pour vous expliquer que l'éternité, c'est la chose la plus importante. Je sais, votre travail est important, votre mariage est important, votre maison est importante, et bien des choses sont importantes. Mais tout cela n'est rien à côté de votre âme, qui ne nous appartient pas. Luc, chapitre 11, verset 52, le Seigneur a été archi-sévère, non pas avec les prostituées, les publicains et les pécheurs, Jésus a été sévère, très sévère, avec les pasteurs. Vous l'avez remarqué en lisant la Bible ? Regardez cette parole. Je vous le dis pour que vous compreniez bien que la sévérité de Dieu, ce n'est pas de la dureté. La sévérité de Dieu, c'est une faveur de Dieu. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de cette parole qui est sortie de la bouche de Jésus sur les pasteurs de l'époque. Beaucoup de pasteurs ne sont jamais entrés dans le repos. Comment voulez-vous qu'ils procurent le repos aux chrétiens dont ils ont la charge si eux-mêmes ne sont pas rentrés dans le repos? Comment peuvent-ils parler de sainteté s'ils ne sont pas eux-mêmes rentrés dans la sainteté? Etc. Donc, je vous dis ces choses car le Seigneur va revenir. Il va revenir chercher l'Église. Vous le croyez? Vous aimeriez rester là quand Jésus va revenir? Non. Si vous êtes là, c'est quand même qu'il y a dans votre cœur le souci de connaître Dieu. Donc nous allons lire plusieurs textes, une parabole qui nous indique un enseignement sur l'importance d'être prêt et que des chrétiens ne sont pas prêts. Dans la parabole de Matthieu 13, 47, c'est la parabole du filet qui est donnée par le Seigneur Jésus lui-même pour que nous comprenions bien qu'il y aura une catégorie de croyants qui ne seront pas enlevés lorsque le Seigneur enlèvera l'assemblée, les assemblées, le corps de Christ. Matthieu 13, 47, on appelle ce texte la parabole du filet. Nous allons bien sûr faire d'autres lectures que je vous encourage à noter pour que vous puissiez les reprendre chez vous et surtout peut-être même reprendre le contexte, ce qui vous aidera à mieux saisir l'enseignement. Tout à l'heure, nous prendrons la Sainte Cène, nous prierons également aussi, peut-être quelqu'un veut se repentir. Dans l'armée du salut, je crois qu'au début, ils avaient un banc, ce qu'on appelait un banc des pénitents. Et lorsqu'après une prédication, quelqu'un voulait donner sa vie à Jésus, il venait s'agenouiller sur le banc des pénitents. C'était bien sûr, ça pouvait être vrai, ça pouvait être faux. Mais une chose est sûre, c'est que c'est bien que tout à l'heure, vous répondiez. Comme on l'a chanté, qu'à répondre, on s'empresse. Qu'est-ce que je vais répondre à cette prédication? Si vous aimez le Seigneur, vous devez répondre, vous devriez répondre avec beaucoup de joie, Seigneur. Oui, je suis d'accord, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me repentir. Mais mes frères et sœurs, que nous n'ayons pas un culte de pour rien, c'est écrit dans la Bible, vous recevez la parole de Dieu en vain. Plusieurs fois, c'est un truc de fou. Moi, je ne veux pas que Dieu me dise un jour, t'as prêché pour rien. La prédication, ça doit être comme un feu, parce que peut-être certains ont besoin d'être retrouvé ce feu. La prédication, ça doit être comme un marteau, parce que qui brise le roc, pas qui brise votre vie. La dureté, la parole de Dieu, ça peut être comme un lait, etc. Il faut que la parole de Dieu ait l'effet qu'elle doit avoir dans vos cœurs, dans le cœur des enfants. Est-ce qu'un enfant peut se convertir ce matin? Eh oui. Alors, lisons cette parabole, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 13, verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est le troisième texte où Jésus utilise cette expression extra sévère. Et il pose une question, que je vous pose aussi. Avez-vous compris toutes ces choses? Ce sont des questions que Jésus a posées, il les a posées aux apôtres, mais je pense qu'il ne les a pas posées qu'aux apôtres. Cette question, elle nous est posée ce matin. Avez-vous compris cette parabole? Alors, oui, répondirent-ils, la suite nous montre qu'ils n'avaient pas forcément tous bien compris. Dieu viendra séparer les méchants d'avec les justes. Nous allons lire un ou deux textes qui nous indiquent ce que sont les méchants. Parce qu'il faut comprendre. Dans le psaume 36, il y a un contraste énorme entre justement les méchants et les justes. Vous voyez, c'est un psaume que vous pouvez partager avec les enfants. Regardez bien, on va lire du verset 2 au verset 5. Nous avons dans ce texte la différence entre le méchant, c'est-à-dire le croyant qui n'a pas de communion, et le juste, celui qui développe une communion avec Dieu. C'est important que nous comprenions la question qu'elle est posée dans la parabole. C'est important que je nous aide à comprendre qui sont les méchants, qui sont les justes. Ça n'a rien à voir avec les pécheurs qui ne connaissent pas Dieu. Psaume 36, verset 2. Alors, l'impiété et la méchanceté, c'est la même chose. La parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité. Pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Et regardez bien la suite. Il ne repousse pas le mal. Voilà, ça c'est catégorique. C'est caractéristique d'un chrétien qui ne repousse pas le mal. Voilà, c'est un exemple, je vous encourage à le méditer. Dans le psaume 101, il y a également le comportement des justes. Voilà, là vous avez l'inverse. Quel est le comportement des justes? Et si vous lisez le livre des Proverbes, il y a des centaines de textes qui nous parlent du juste et du méchant. Le juste, c'est le chrétien qui obéit. Vous voyez, il y a le chrétien méchant, et il y a le chrétien juste. Là, nous avons le comportement du chrétien juste. Psaume 101, verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Vous voyez l'inverse? C'est exactement l'inverse. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Parce qu'il n'y a pas que l'Église. Regardez bien. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Voyez, ça, c'est quelqu'un qui veut avoir une véritable piété. Quelqu'un qui comprend la parole. Beaucoup de chrétiens, je vous dis, sont dans un flou total. Je le sais. Quand je pose à quelqu'un qui est converti, qui est baptisé depuis 10 ans, vous pouvez m'expliquer la différence entre la repentance et la conversion et la nouvelle naissance? Non. Alors je dis bien, je sais bien qu'on n'est pas tous des théologiens, mais quand même. Un autre texte, s'il vous plaît, c'est dans Tite. Dans Tite, il y a une définition extraordinaire, c'est certainement pour moi, la mieux dans la Bible de la piété. Parce que pour beaucoup de gens, qu'est-ce que c'est la piété? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce matin, puisque les gens qui n'ont pas de piété, le Seigneur ne les prendra pas. Vous avez compris. C'est exactement l'enseignement de la parabole. Les gens méchants, les chrétiens méchants, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de piété. Ces chrétiens-là ne seront pas pris. Alors, vous comprenez bien que c'est de mon devoir de nous aider à voir où nous en sommes au niveau de la piété. Vous savez, comme quand vous recevez une analyse de sang, on ne sait pas, nous, lymphocytes, il en faut combien? Alors, il y a un numéro, vous savez, il y a une moyenne. Vous avez déjà vu des analyses de sang. Il faut, mettons, 2000, je ne sais pas, j'ai un truc, ou 400 000. Ah, j'en ai combien? Ah, 380. J'en ai 580 000. Vous voyez, de suite, oula, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous êtes d'accord que quand on... Oui ou non? Eh bien, là, c'est pareil. Il faut que nous sachions tout à l'heure où j'en suis moi-même de ma piété, où est-ce que j'ai que l'apparence de la piété, où est-ce que vraiment je ne suis pas trop loin du but recherché. Si j'en suis très loin, eh bien, on va laisser le Seigneur nous aider, parce qu'il nous aidera, le Seigneur. Tite, chapitre 2, verset 6. On va lire jusqu'au verset 15. Ça aussi, c'est un texte que vous pouvez prendre avec les enfants pour les enseigner. Tite, chapitre 2. Verset 6, exhorte, vous voyez, on voit bien que c'est ça, il faut exhorter, c'est-à-dire encourager, pas descendre. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. S'il y a bien quelque chose qui devrait caractériser toutes nos réunions, c'est qu'on honore la doctrine de Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Regardez bien ce que nous enseigne la grâce de Dieu. Parce que là, ta grâce, moi j'ai vu des gens, ta grâce, Jésus, ta grâce. Je peux vous dire que le comportement était loin de ce qu'on va lire. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est à nous de les renoncer à l'impiété. Que personne n'ait le culot de dire « Oh, moi, j'arrive pas, j'ai hérité ça, je n'arrive pas. » La grâce nous enseigne, ça passe par le cerveau, après par l'acte, à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Dans tous les siècles qui ont existé, tout le monde peut vivre dans la grâce, dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, vous êtes d'accord avec moi, la grâce nous enseigne à vivre selon la piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, je vous rappelle que c'est un pasteur qui parle à un autre pasteur. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Ne méprisez pas la parole du Seigneur. Quand on méprise un serviteur de Dieu qui prêche la parole, vous méprisez le Seigneur Jésus lui-même. Bien sûr, si je dis quelque chose qui n'est pas correct, ça, vous pouvez le mépriser. Mépriser, ça veut dire que vous n'y attachez aucun prix. Si je vous dis une aberration, vous pouvez dire, ça, je le méprise, je n'en veux pas, parce que ce n'est pas biblique. Si je vous dis aujourd'hui, vous pouvez prier les morts, est-ce que vous pouvez le mépriser, ça? Et bien sûr, parce que c'est une abomination. Vous pouvez prier la Sainte Vierge, vous pouvez me dire, pareil, Monsieur Gault, c'est grave, ça, je ne le reçois pas, parce qu'il n'y a qu'un intermédiaire entre Jésus-Christ et les hommes. Mais ne méprisez jamais l'enseignement de la parole de Dieu. Nous sommes là dans la maison du Seigneur. Je crois que nous avons beaucoup, beaucoup de joie à nous retrouver dans la maison du Seigneur. Vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur? C'est une immense joie. Peut-être que plusieurs pourriez dire « À quel autre irions-nous » Vous pouvez le dire ça devant Dieu, comme Pierre qui a dit à Jésus « Mais à quel autre irions-nous » Où serions-nous mieux que ce qu'ici ce matin? Vous savez, quand un chrétien traîne les pieds pour aller à l'église, c'est déjà un signe qu'il va y avoir un problème. Je crois que c'est une grâce de se retrouver dans la maison du Seigneur. Oui ou non? Si vous traînez les pieds pour venir à l'église, si vous dites « Oh, je suis crevé, j'y vais » ou alors « Je suis crevé, j'y vais pas », moi je vous conseille d'écouter bien ce que je vais vous dire. Parce que vous êtes en danger et c'est à moi de le faire. Et je vous le dis que la honte, elle n'est pas sur les chrétiens, elle est sur les pasteurs qui ont la clé de la connaissance. Enfin, les vrais pasteurs, ils ont quand même un minimum de connaissance, comme on l'a lu dans le reproche que Jésus fait aux pasteurs de l'époque. Et il leur dit, mais vous n'êtes pas rentrés vous-même. Il y a des pasteurs qui ne sont pas convertis, je peux vous le dire. Il y a des pasteurs qui ne sont jamais passés par la nouvelle naissance, croyez-moi. Et c'est pas moi qui le dis, c'était déjà à l'époque, qui a crucifié Jésus-Christ? Qui a vraiment que le diable a utilisé pour crucifier Jésus-Christ? Les pharisiens. Bien sûr, c'est le péché, d'accord, mais quand même, ce sont eux qui ont été vraiment des bons instruments pour la crucifixion de Jésus, ça fait pitié. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux ce matin que Dieu te parle? Est-ce que franchement, il y a quelqu'un qui dans son cœur dit, mais moi je veux une parole de Dieu? Si le Seigneur vous disait ce matin, comme il a dit à cet aveugle, Bartimée, écoutez bien s'il vous plaît, c'est pas du blabla. Si le Seigneur, au travers de moi, vous pose la question, que veux-tu que je te fasse? Parce qu'on peut dire, bon, un aveugle, ben, c'est clair, ouvre mes yeux. Mais soyons sérieux. Vous savez, c'est des questions qui prêtent à rire, il y a des gens qui ont ri. Que Jésus pose la question à un aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais c'est vachement profond, excusez-moi pour le mot. C'est archi profond. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Est-ce que quelqu'un pourrait dire, mais Seigneur, continue à ouvrir mes yeux? Parce que je ne suis pas sûr que ma vue spirituelle est des plus correctes. Ouvre mes yeux afin que je voie l'état spirituel dans lequel je me trouve. Bien sûr que je ne parle pas des yeux physiques. Béni soit Dieu si nous avons des yeux qui marchent bien. Mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez répondre, Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux avoir ce cœur honnête et bon. Vous savez, dans la parabole des terrains, il y a 4 terrains. Il y en a 3 que ça ne va pas, même s'il y en a 2 qui ont l'air qui vont bien. Mais il y en a un qui est honnête et bon. La Bible dit que c'est un cœur qui est honnête et bon. Il est travaillé. Vous croyez que... un terrain, ça se travaille tout seul? C'est pas écrit dans la Bible, défrichez-vous un champ nouveau, labourez vos jachères. C'est pas Dieu qui le fera, c'est nous qui le ferons. Défrichez-vous, c'est nous. Quelqu'un qui a un cœur honnête, quelqu'un qui a un cœur bon, il n'est pas né avec un cœur honnête et l'autre est né avec un cœur mauvais. C'est nous qui choisissons d'avoir un cœur travaillé. Et je te demande, Seigneur, de me travailler. Je reconnais mon endurcissement, je reconnais que ce n'est pas le top à la maison. Je ne pense pas que j'ai le témoignage que je devrais avoir avec mes enfants ou avec mon patron. Tu viens de me reprendre au travers de ce que je devrais faire. Mais ben, Seigneur, ouvre mes yeux, vraiment. Que je sache dans quel état je suis. J'ai donné comme titre à ma prédication, « Sais-tu au moins si tu es sauvé ou perdu ?» Il y a des chrétiens qui ne savent pas. Les vierges folles sont des chrétiens qui attendent le maître, qui attendent les noces de l'agneau, qui attendent l'enlèvement et qui ne savent pas qu'ils ne sont pas prêts. Ça nous fait sourire peut-être, mais la prophétie de la parabole des 10 vierges est une parole d'une profonde sévérité. Il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts et qui ne le savent pas. Et bien sûr qu'il y en a un qui s'arrange pour essayer de vous faire croire que vous êtes prêt. C'est pour cela qu'il faut savoir si je suis un méchant ou si je suis un juste. On doit le savoir, on doit. David, pendant un an, il a fait du cinéma. Qui ? David. Le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu, il a fait du cinéma. Jusqu'au jour où Nathan, rempli du Saint-Esprit et surtout de courage, a été lui dire « Mais tu es cet homme-là » Et David s'est repenti et il a dit « Purifie mon cœur » parce que c'est une chose de le chanter. C'est « Purifie mon cœur », lisez le psaume 51 et regardez ce psaume, il dit « Mais sonde-moi, ne me retire pas ton Esprit Saint, délivre-moi, lave-moi ». C'est un homme qui est soucieux de retrouver la communion avec Dieu. C'est important pour vous la communion avec Dieu ou vous pensez que la communion avec Dieu c'est votre présence à l'église? J'espère que vous n'êtes pas aveuglé à ce point. La vue spirituelle n'a rien à voir avec la présence à l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui sont comme ces terrains. En préparant cette prédication, je pensais à ma maison que j'ai à Grouillé. Il y a un paysan qui a 2 terrains à côté de chez moi. Il y en a un qui est continuellement labouré, et il y a un autre qui est en jachère. La même quantité de pluie tombe sur les 2 terrains. il y a un champ qui est sec, même quand il pleut, parce que l'eau, il est tellement durci, vous savez comment ça passe, l'eau glisse. Et l'autre champ à côté qui est travaillé, il y a du maïs à profusion, ou la semence qu'il a mis en, qu'il a ensemencé. C'est la même quantité de pluie. C'est la même prédication qui tombe ce matin dans vos cœurs. Certains vont porter du fruit et certains vont s'endurcir. Et vous devriez quand même chacun dire, Seigneur, oui, mais moi aussi je te demande d'ouvrir mes yeux pour que je sache exactement l'état spirituel dans lequel je me trouve. Vous savez, une des plus grandes joies sur la terre, c'est d'entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Vous vous rappelez un jour, quand Jésus était en train de parler, c'est dans l'évangile de Luc, je l'ai marqué au chapitre 11, je crois, 27, 27, ne le cherchez pas. Jésus est en train de parler, et tout d'un coup, il y a une femme qui l'interrompt. Il y a des gens qui ont interrompu Jésus pendant qu'il prêchait, je crois que Dieu l'a permis, parce que ça vraiment, c'était pas bien. Et puis, il y a une femme qui dit, « Heureuse, heureuse le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Paf, comme ça. Et vous savez ce que Jésus a répondu? C'est bien. C'est ça qu'il a répondu? Il a répondu, heureux plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il y a, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur. Il y a quelque chose de plus béni que d'avoir porté le Seigneur Jésus lui-même. Pourtant, je pense que c'était quand même pas mal. C'est d'écouter la parole et de la garder. Parce que l'écouter, ça veut rien dire. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui disent « Oui, je vais garder, je ne vais pas tout retenir, mais je veux la garder. Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur ? Dans quelle catégorie je suis, là, sur l'analyse de sang, dans l'analyse spirituelle, où je suis, de quel côté je suis ? Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que vraiment je sais ? J'ai l'assurance, on terminera tout à l'heure après la Sainte Cène avec ce beau cantique, j'ai l'assurance de mon salut. » Par la puissance du sang de Jésus, j'ai l'assurance. Il faut savoir si je vis dans l'utopie, dans l'illusion. Écoutez, frères et sœurs, moi je vous assure, j'ai peur. Hein. Il y a plein de chrétiens qui s'imaginent qu'ils sont prêts. Ils s'imaginent qu'ils obéissent. Ils s'imaginent, parce qu'en plus ils ont mis le culot de dire « Dieu voit mon cœur ». Eh oui, Dieu voit que ça ne va pas. Alors mes frères et sœurs, il faut savoir une chose, qu'il n'y a rien qui remplace l'obéissance joyeuse. Vous vous rappelez quand Saül a fait le beau, avec Samuel en plus. Mais j'ai obéi, c'est le peuple. C'est facile de dire, si ça ne va pas, c'est la faute à ma femme, c'est dans une église, c'est la faute au pasteur, ou c'est la faute à l'église. C'est facile de trouver quelqu'un. Moi je vais vous dire, si vous voulez être prêt à rencontrer le Seigneur, arrêtez de justifier votre désobéissance en accusant les autres. Que t'importe les autres, ça ne veut pas dire qu'on se fiche des autres. Que t'importe les autres, ça veut dire, quand Jésus a dit ça, c'est lui qui l'a dit, ça veut dire, les autres, je m'en occupe. Prie pour eux, je m'en occupe. Mais toi, suis-moi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire. Voyez-moi que je prêche, vous pouvez dire, il s'applique, il a préparé son message. Oui, mais je peux vous dire que l'obéissance est supérieure à mon ministère. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Et la résistance est aussi coupable que la... Vous savez ce que c'est la divination? Il y a des gens qui trafiquent avec l'astrologie, qui cherchent les esprits. C'est diabolique. Dieu dit que la résistance est aussi coupable que la divination. C'est pour cela que nous devons être super sérieux, joyeux, c'est un fait. Mais nous devons dire, Seigneur, mais dans quelle catégorie je suis? Quelle est ma piété? Ne le cherchez pas, mais marquez-le si vous prenez des notes. Dans Osée, au chapitre 6, au verset 4, Dieu pose une question au peuple d'Israël. Alors c'est intéressant parce que Dieu, on appelle ça des anthropomorphismes. Dieu parle d'une manière humaine, il sait très bien ce qu'il doit faire. Mais il dit, que te ferais-je Éphraïm? Que te ferais-je Judas? Dieu est en train de dire, mais quelle est la chose, quelle est l'épreuve que je vais devoir t'envoyer pour que tu aies une véritable piété? Il dit ceci, que te ferais-je Éphraïm? Que te ferais-je Judas? Votre piété, regardez bien, et comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Et après, il ajoute, sa racine est devenue sèche. Mais qu'est-ce que je vais te faire? Ta piété, elle vaut rien. Vous savez, la nuée, vous avez vu le matin quand il y a du brouillard. Vous êtes parti en vacances cet été, vous prenez l'autoroute et il y a du brouillard. Tout, vous dites, il va y en avoir pour toute la journée. Et dès que le soleil se lève, qu'est-ce qui se passe? Un rayon de soleil et le brouillard. Un rayon de soleil, ça veut dire un petit truc de rien. Une petite épreuve de rien du tout. Une petite contrariété et paf, la piété, elle s'est envolée. C'était les Hébreux, vous allez me dire. Nous, les Toulousains, on est au-dessus. Mais quand même, c'est une question. Moi, je la vois pleine d'amour. Quand je l'ai lu la première fois, je disais, oula, le Seigneur, il est sévère. Mais maintenant, les années ont passé. Et je me dis, qu'est-ce que tu es bon, Seigneur. Que te ferais-je? Vous avez envie que Dieu vous dise, mais qu'est-ce que je vais te faire? Quelle épreuve je vais t'envoyer pour que tu réagisses? Vous avez envie que Dieu vous dise ça? Ou vous avez envie que Dieu dise dans les cieux, parce que ça s'est déjà passé, tu as vu mon serviteur, comment il est droit et pieux et juste. On pourrait terminer, j'espère qu'on aura le temps de terminer avec ça. Mais que te ferais-je? Vous avez envie que Dieu calcule, c'est une façon de parler, une autre épreuve pour vous ramener dans la justice? Non, bien sûr que non. Les pleurs et les grincements de dents, moi c'est une expression qui m'a fait froid dans le dos. Je ne savais pas que je serais pasteur la première fois où j'ai lu ça. Mais aujourd'hui, ma responsabilité est décuplée parce que je sais que c'est mon devoir et que si tous les pasteurs et tous les curés dans toutes les églises du monde avaient fait leur boulot, eh bien on n'en serait pas là. Les églises seraient remplies de gens pieux et Dieu va nous redemander des comptes parce que nous avons laissé les gens dans la légèreté, dans l'impiété. Nous avons laissé les gens dans la légèreté totale. Pourquoi? Parce que nous avons eu de peur de perdre des gens. Perdre des gens, c'est perdre des dîmes. Et nous avons calculé ça. Et ça, je peux vous dire que ça vient de l'enfer. On ne calcule pas ça. Ce qu'on calcule, c'est que les âmes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur. Vous venez pour la première fois, vous trouvez ça un petit peu costaud. Mais ce n'est pas grave. Dieu vous aime, il veut vous sauver. D'autant plus que Jésus va bientôt revenir. Les vierges folles, elles sont taxées de folles. Pourquoi? Parce qu'elles sont négligentes. Et si vous êtes négligent, vous pouvez être taxé d'insensé par le Seigneur. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous l'avez lu ça? Vous le savez que c'est vrai. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Un pasteur qui prêche pour prêcher, pour faire plaisir aux gens, si malheur à lui, malheureux. Parce qu'il faut qu'on ressorte meilleur. Vous avez envie de ressortir meilleur? À la sortie, vous me le direz. D'accord? Vous me le direz si vous ressortez meilleur. D'accord, monsieur Dubois? Dieu a dit dans Osée 6, j'aime la piété. Alléluia. J'aime la piété. Quand Dieu vous regarde, je ne sais pas comment ça se passe, qui je suis, moi. Mais quand même, je sais que le regard de Dieu est sur ceux qui le craignent. La bonté de Dieu est sur ceux qui le craignent. Il y a le regard de Dieu sur nos vies. Et je voudrais que, là, en ce moment, Dieu qui regarde tous les habitants, qui nous regarde à nous dans ce lieu où nous sommes heureux, il puisse dire, ah, cet enfant, mon enfant, il est plein de piété. Oui, nous devons nous préparer à la rencontre de Dieu. La grâce de Dieu, vous l'avez lu avec moi dans l'épître de Tite, nous enseigne la piété. Ça fait des semaines qu'avec les responsables de l'Église, on utilise un texte sur la participation de la nature divine et il est dit que sa divine puissance nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est écrit ou c'est pas écrit? De Pierre au chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut dire « mais moi, j'ai pas, mais moi, j'obtiens pas ». Je vous le dis, si vous n'obtenez pas quelque chose, c'est parce que vous ne croyez pas, ou que vous ne le demandez pas, ou que vous le perdez dès que Dieu vous l'a donné. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, que son nom soit béni. C'est important, mes frères et sœurs. Vous le croyez, ça? Vous pouvez, dans un moment de communion, dire « Seigneur, moi, je te demande de la piété ». Et je vais y travailler. La parole de Dieu, c'est évident, puisque la grâce de Dieu communique la piété. Quand vous lisez la parole de Dieu avec la tête et que ça descend 40 cm plus bas, ça se transforme en piété. Ah, tu viens de me dire que le méchant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le méchant? Il ne repousse pas le mal. Ah, est-ce que je repousse le mal? Et là, quand même, je veux dire, un enfant peut répondre. Est-ce que oui ou non? Tiens, ça, c'est mal. Eh bien, je le repousse. Si vous ne le repoussez pas, Dieu vous met dans la catégorie des méchants. Vous pouvez le faire. Faites-le. Je vous rappelle que vous êtes dans une église. Et ce qui caractérise l'église, c'est que Jésus conseille. Je te conseille. d'acheter un collier pour oindre tes yeux. Dieu ne nous force pas. Si quelqu'un, un jour quelqu'un vous force, vous avez affaire à quelqu'un de cette terre. C'est sûr et certain. Nous sommes dans l'église du Seigneur. Vous êtes libre. Si vous voulez ce soir regarder des saletés à la télé, mais regardez-les. Un ange, ne dites pas comme un jour, j'ai demandé à un ange qui vienne m'empêcher. C'est ridicule. Non, mais il y a des gens, et oui, comme ça, Dieu n'envoie pas l'ange dont je peux. Vous voyez, comme il y a des gens qui sont fins. Mes frères et sœurs, c'est sérieux la parole de Dieu. Il y a des gens tordus, et la Bible en parle des gens tordus. Le souci d'un chrétien, c'est de dire, tiens, mais est-ce que je fais partie de cette catégorie des méchants? Est-ce que je fais partie de ces chrétiens qui sont justes? Il y a un travail. Regardez avec moi dans Pierre. C'est dans Pierre, j'aime beaucoup ce verset parce qu'il est parlé de travail. Et la Bible dit que nous travaillons à notre salut. Vous travaillez à votre salut? Comment vous y travaillez? Avec quoi il faut travailler? Il y a deux vertus qui sont demandées par le Seigneur. Avec? Vous ne parlez pas fort. Alors quand il ne faut pas parler, vous ne parlez pas. Vous parlez, quand il faut parler, vous ne parlez pas. Avec crainte et tremblement, c'est-à-dire un grand respect des choses de Dieu. Moi je suis bouleversé qu'on ait la Bible dans notre langue. Ce n'est pas une grâce ça? Dans 1 Pierre au chapitre 4, il y a une parole qui nous prouve que... Alors on va lire le verset 17 et le verset 18. Regardez s'ils sont beaux ces versets. Ils sont beaux, il y a un avertissement et il y a un encouragement. Un avertissement, à savoir 1 Pierre 4, verset 17, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est après l'enlèvement que les pécheurs y vont comprendre. Mais juste après l'enlèvement, il y aura le jugement des chrétiens. Le jugement des chrétiens, ce n'est pas le jugement dernier, ce n'est pas la condamnation. Pour beaucoup de gens, le jugement, c'est la condamnation. Le jugement dans ce texte, ça veut dire qu'il faudra rendre des comptes. Nous devrons rendre des comptes. Une fois que nous serons enlevés pour participer aux noces de l'agneau, nous allons rendre des comptes. On a parlé de couronne, de récompense. Tout cela va se jouer ce moment-là. Le jugement commence par la maison du Seigneur. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est une question. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, donc c'est des chrétiens qui n'obéissent pas. Et si le juste, dont le juste c'est le chrétien qui obéit, se sauve avec peine, la peine c'est le travail. Aujourd'hui on l'utilise que pour la souffrance et le chagrin. Mais il y a 30 ans ou 40 ans, quand j'étais petit, on disait tiens, eh bien, il se donne de la peine. On le disait souvent ça. Voilà, il peine, c'est un travail, oui, peine. Maçon disait, ouh, qu'est-ce qu'il peine? Si le juste se sauve avec peine, c'est-à-dire avec travail, que deviendront l'impie, c'est-à-dire le chrétien qui n'a pas de piété, et le pécheur, c'est-à-dire la personne qui n'a jamais connu le Seigneur? Donc on voit bien qu'il y a trois catégories de personnes et qu'un chrétien, il travaille. Alors on va lire un texte pour travailler, un texte que vous connaissez bien dans 2 Timothée, si je ne me trompe pas, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, un texte en plus qui nous enseigne que nous sommes dans des temps difficiles. Vous ne trouvez pas que les temps sont difficiles? Les temps sont très difficiles, mais difficile, ça ne veut pas dire impossible. Croyez-moi, c'est impossible pour les gens qui sont dans les ténèbres. Mais pour nous les chrétiens, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, comment seront les hommes et comment seront les chrétiens? Parce que vous comprendrez bien que c'est pour des chrétiens. Car les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'un chrétien peut être égoïste? C'est-à-dire, il pense qu'à lui. C'est un problème, ça. Un chrétien, il doit être altruiste. Et on peut peut-être pas tout faire, mais on doit se donner à son conjoint. Est-ce que vous aimez faire plaisir à votre mari? Vous pouvez régler la sono comme il faut, s'il vous plaît. Est-ce que vous aimez faire plaisir à votre femme? Ah, oui, là, merci les frères. Oui. Est-ce que vous aimez faire plaisir à vos enfants? Les enfants, écoutez-moi les enfants. Il y en a au milieu de nous. Écoutez-moi les enfants. Est-ce que vous aimez faire plaisir à vos parents, leur rendre service? Si vous êtes égoïste, c'est pas bon signe. Si vous dites non, moi ça me saoule. Vous savez, c'est une expression qu'on entend souvent, ça. Mais écoutez-moi, frères et sœurs. Moi, je vous conseille maintenant de renoncer à l'égoïsme. Ça vous fera faire d'énormes pas dans la piété, de dire, maman, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Vous l'avez jamais fait, ça? Je... Mes frères et sœurs, vous ne l'avez jamais fait. Maman, qu'est-ce que c'est? Moi, je vous le dis parce que je sais que le jour de ma conversion, le lendemain, j'ai vu mon père qui passait le motoculteur dans le jardin. Pour moi, il était vieux, il avait 50 ans. Et j'étais voir mon père. Oui, mais pour moi, il était vieux. Je dis, papa, ce n'est pas à toi le faire, je le ferai. Même moi, je me suis étonné. J'ai dit, vraiment, il y a un truc qui s'est passé. Mais j'avais... Je ne le dis pas pour me jeter des fleurs. J'ai eu tellement de progrès à faire. Mais franchement, est-ce que vous trouvez normal qu'on ne se rende pas service dans une famille? Les enfants, les ados, les jeunes, les couples, les maris, les femmes. Voyons, on pourrait prêcher toute la réunion sur l'égoïsme et sur l'altruisme. Mais franchement, si vous êtes égoïste, vous n'êtes pas dans le chemin de la piété. Vous êtes dans le chemin de la méchanceté. Parce que quand même, quand on aime, on a envie de rendre service. Oui ou non? On a envie de rendre service. C'est grave, vous voyez, c'est des trucs... Moi, je sais qu'il y a des chrétiens égoïstes. C'est aux chrétiens qui parlent, hein, c'est pas aux pécheurs. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent. Est-ce que vous aimez l'argent? Vous aimez l'argent? Vous appréciez l'argent? Vous aimez l'argent? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors l'argent, c'est une bénédiction. Oui ou non? Si vous en avez, tant mieux, c'est bien. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas d'avoir de l'argent ou de ne pas en avoir. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Parce que c'est une bénédiction. Si Dieu vous a béni matériellement, si vous avez tout en abondance, est-ce que c'est écrit que Dieu nous donne toutes choses en abondance afin que nous en jouissions? Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. Il y a plein de versets. Au contraire, si Dieu m'a donné, ben je peux faire davantage pour l'œuvre de Dieu, etc. Tiens, avant, je pouvais donner que ma dîme. Maintenant, je peux donner mon offrande. Voyez, Dieu nous donne toutes choses afin qu'on en jouisse et qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu. Un chrétien, c'est pareil, il aime donner. Mais quelqu'un qui aime l'argent, il devient avare. Et quelqu'un qui est avare démontre que sa piété est superficielle. Il y a des gens qui ont perdu la foi, qui ont perdu le salut, parce qu'ils aimaient l'argent. Vous voyez, là aussi, on pourrait faire toute une exhortation là-dessus. Et vous devez demander à Dieu de l'aide. Si vous êtes avare, peut-être que vous êtes né dans une famille avare, où les gens étaient pixous, comme on dit. Eh bien, demandez à Dieu. Est-ce que Dieu peut délivrer de l'amour de l'argent? Mais bien sûr, c'est ça. Il renonce à certaines choses. La vraie grâce de Dieu nous permet de renoncer. Oh, je suis esclave de ça, Seigneur. La grâce de Dieu, si elle ne vous aide pas, c'est que vous n'y êtes pas. Ce n'est pas possible. Fanfaron, bon, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat. Ingrat, vous dites merci? Est-ce que vous dites merci? Est-ce que vous aimez dire merci? Merci aux gens, tout le monde, au Seigneur. C'est Émilie ce matin ou Corinne qui priait? C'est Émilie. Émilie Brouet qui disait Seigneur, merci. C'est le mot, tu vois ce qu'il veut dire. Et c'est vrai que quand on dit merci, merci pour un café, merci pour un petit service. Mais quand on dit merci à Dieu, c'est drôle comme le merci, il s'épaissit. Mais j'espère que vous êtes plein de reconnaissance, que vous savez remercier Dieu d'avoir... est-ce que vous réalisez la grâce d'avoir une église? Est-ce que vous dites merci Seigneur pour l'église? Seigneur, je ne dis pas ça pour moi. Est-ce que vous dites merci Seigneur parce qu'on a un pasteur? Vous savez qu'il y a des églises qui n'ont pas de pasteur. Merci pour la santé. Merci. Des bienfaits, je pense que vous pouvez les compter, si vous y arrivez. Irreligieux, vous voyez, irreligieux. Ça, c'est le problème, ça, l'apostasie, les gens qui font semblant d'être religieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Cruel, un chrétien cruel? Non, tu plaisantes. Est-ce qu'un chrétien peut être méchant? Moi, j'ai vu des chrétiens, je vous assure, je le croyais pas. Après qu'on se loupe une fois, tiens, j'étais maladroit avec un frère, Philippe, le lendemain, je ne sais pas, ou même là, je prends la Sainte-Cène. Le Saint-Esprit ne peut que me rappeler que j'ai été maladroit, oui ou non? Quand on est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Si j'ai été maladroit avec Philippe, ce n'est pas possible. Demain matin, en faisant mon culte, tout à l'heure, en prenant la Sainte-Cène, mais c'est vrai, j'ai été maladroit avec Philippe. Philippe, je vous demande pardon. Et il y a des gens qui sont cruels. Moi, je dis la vérité. C'est à prendre ou à laisser. C'est pas comme... Vous voyez? Et on voit, je pourrais donner des multitudes d'exemples, ça fait sourire la façon dont je vous le dis, mais c'est grave. traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Tiens, on revient au plaisir. Les plaisirs. Est-ce que vous aimez vous faire plaisir? Le plaisir, c'est un sujet quand même. Aimant le plaisir, c'est bien, c'est une grâce, les plaisirs. Il y a plein de choses qui nous... Est-ce qu'il y a des choses qui vous font plaisir? Merci Seigneur. Je ne sais pas moi ce qui vous fait plaisir. Mais voyez, faites attention par exemple que le sommeil ne vous fasse pas plus plaisir que le culte. On doit aimer Dieu plus que tout. Merci Seigneur pour les plaisirs. Si je ne sais pas si vous... Nous on a vécu dans la pauvreté, vraiment dans la pauvreté. Et quand on a pu commencer à acheter certaines choses pour se faire plaisir, quel bonheur, oui ou non? Hein, vous achetez une belle robe à votre petite fille parce que vous pouvez le faire, c'est un surplus, c'est un plaisir. Ne me dites pas que ce n'est pas une grâce de Dieu, c'est une faveur de Dieu. Mais qu'est-ce que des chrétiens aiment leur plaisir? Et le problème, c'est que ça enclenche un processus d'impiété. Ça fait que voilà, comme Dieu n'est pas en premier, ben je vais me louper des cultes, je vais me louper des œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Et je vais m'attrister, je ne m'en rends même pas compte. Et je crois que c'est dû à la fatigue, et je crois que c'est dû à tel truc. Et en vérité, c'est dû au fait que je n'ai pas de communion avec Dieu. Je dois aimer Dieu plus que tout. C'est une bénédiction, mes frères et sœurs. C'est une bénédiction. N'aimez pas le plaisir plus que Dieu. La piété, c'est Dieu en premier. C'est Paul qui dit à Timothée, exerce-toi à la piété. On va le lire ce verset, on est dans Timothée. Attendez, non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Verset 5. Ayant, alors là c'est le verset qu'il faut aujourd'hui. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce que Dieu dit aux gens qui ont une impiété? Oui, autant c'est bon de rendre mon témoignage, autant je vous dis qu'il ne vaut mieux pas se retrouver trop dans les pieds des gens impies. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez, c'est délicat parce qu'on doit rendre un témoignage avec tout le monde et en même temps, on doit s'éloigner des gens impies. Vous voyez, c'est comme Jésus, il était ami des pécheurs et il se tenait éloigné du mal. Vous voyez, parce qu'il y a des gens, oui, Jésus était l'ami des pécheurs, je peux faire ce que je veux. Non, Jésus était l'ami des pécheurs et il se tenait éloigné du mal. Il faut savoir s'éloigner des gens impies. Parce que si vous fréquentez que des gens impies, ils risquent d'être une pierre d'achoppement. Et vous avez vu au verset 7, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. On voit plein de gens, ils vous disent, mais je connais la Bible, tatati et tatata, et ils n'arrivent jamais à la vivre. L'apparence de la piété. Et mes frères et sœurs, pour avoir l'apparence de la piété, il faut aller à l'église, il faut lire sa Bible, il faut prier un petit peu, et il faut faire un petit truc par-ci, par-là, et on croit qu'on a une véritable piété. La piété, c'est quelque chose qui parle de crainte de Dieu, et d'une véritable justice. La piété, c'est pas en parole, bien sûr que c'est en parole. La piété, c'est dans les actes, c'est un exercice. C'est pour ça qu'on va lire justement dans 1 Timothée, voyez, au chapitre 4, c'est une parole qu'un pasteur adresse à un jeune pasteur pour vous dire combien c'est important que nous développions cette vertu. On n'en parle jamais. Moi, j'ai vu dans des églises des gens, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Des chrétiens de longue date. C'est quoi la piété? Des chrétiens qui ont 20 ans de conversion, vous voyez. C'est quoi la piété? Comme ça, comme des gens spontanément disent, mais c'est quoi? Bon, 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Regardez bien ce verset, regardez-le bien. Les jeunes qui soupiraient après un conjoint, tiens donc, regardez. Ou ceux qui aspirent à quelque chose de mieux, regardez-le bien. Exhorte, dit l'apôtre Paul au pasteur, exhorte. Exerce-toi à la piété. L'exercice corporel est utile à peu de choses. À l'époque, n'oublions pas que les gens faisaient tout à pied, dont l'exercice ils en faisaient. Aujourd'hui, on peut faire de l'exercice, vous comprenez bien. Ce n'est pas interdit de faire un peu d'exercice et même je pense que c'est bien conseillé. Tandis que la piété est utile à tout. Et regardez la suite. Mais non, mais franchement, regardez bien la suite. Je ne sais pas si vous aimez les promesses à venir et présentes. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Je ne sais pas si ça vous encourage. Moi, ça me fait du bien. Mes frères et sœurs, l'exercice de la piété, développer cette crainte, développer ce comportement juste, cette obéissance joyeuse. Je vous interdis de parler d'obéissance légaliste, ça a mis la pagaille dans les églises. L'obéissance, elle doit être joyeuse. Je fais les choses avec joie. L'exercice de la piété provoque les promesses de Dieu pour le présent et pour l'avenir. Vous pouvez dire alléluia. Je sais pas, vous le croyez? La piété, elle est utile à tout. L'apôtre Paul dit ailleurs, que, dans ce livre d'ailleurs, c'est une source de gain que la piété et le contentement. Le contentement. Seigneur, merci pour mon travail. Vous le dites, merci Seigneur pour mon travail. Vous vous dites, j'en ai marre de mon boulot, j'en ai marre. Seigneur, je te remercie pour le travail. Ce n'est pas le travail que j'aurais choisi, mais peut-être c'est le travail que Dieu vous veut. Le temps que vous appreniez ce qu'il faut apprendre au cours préparatoire, ou en CM2, ou en 3e, ou en fac. Seigneur, je veux être content. C'est une grande source de gain que la piété et le contentement. Exerce-toi la piété. Quand vous lisez la parole, vous prenez un psaume, n'importe lequel. Ce matin, je lisais le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que je le fais, ça? Oui, c'est ça la piété. C'est se dire, mais est-ce que je le vis, ou est-ce que c'est du blablabla? Il y a des gens qui disent, mais oui, mais bien sûr. Mais ils ne le font pas. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Le culte qu'on doit rendre à Dieu, vous le connaissez, Hébreux 11, 21, ne le cherchez pas. Rendez à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Mes frères et sœurs, je vais terminer. Je vais terminer avant que nous prenions la Sainte Cène, que nous répondions à Dieu. Que vous puissiez répondre à la question que Jésus a posée en son temps. Et vous, avez-vous compris toutes ces choses? Est-ce que vous comprenez qu'un méchant... C'est un chrétien, il dit d'accord, mais quelqu'un qui a compris que Jésus était Dieu, que Jésus était le Sauveur, il sait très bien que la parole de Dieu, elle est inspirée, etc., etc. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est-ce que j'ai compris que je dois obéir, que l'obéissance, c'est la preuve de la vie de l'Esprit? Moi, j'étais touché quand Ouachmani, dans un de ses livres, il dit « Un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui est rempli d'obéissance ». Moi, j'ai trouvé ça super, parce que ça résume bien les évangiles. Maintenant, nous devons, vous et moi, on n'est pas là dans la culpabilisation, on est là dans l'intelligence. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repousse le mal? Est-ce que je ne mets rien de mauvais devant mes yeux? Parce que là, ce n'est pas évident aussi. Oui ou non? Ça peut se faire. On a des télécommandes. On va lire un témoignage, d'accord? Témoignage de Siméon. Vous connaissez Siméon? Ils n'étaient pas nombreux en plus à l'époque. Dans Luc, chapitre 2, regardez qu'est-ce qu'il nous est dit de cet homme. C'est bien de terminer parce qu'on peut quand même s'identifier et rechercher à ressembler à ces gens. Est-ce que c'est dit dans la Bible de chercher à ressembler à des gens qui ont rendu un bon témoignage? Oui, Luc, chapitre 2, regardez. Ça s'est passé, regardez bien cette sensibilité de cet homme, Luc chapitre 2. Alors, Jésus avait quelques jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était un tout petit bébé, il est amené au temple pour la présentation. D'accord? Donc, c'était difficile de savoir que c'était quand même le sauveur du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Les pharisiens, quand ils ont vu Jésus exercer le ministère, n'y ont rien vu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? La sensibilité, quand on voit les choses, Jésus était un bébé de 8 jours. Comment pouvait-on savoir qu'il était le sauveur du monde? Les pharisiens auraient dû de suite flasher et dire, « Mais c'est ça, c'est ce qui est écrit, c'est le sauveur. » Ils ne l'ont même pas vu. Et la piété, c'est voir les choses spirituelles. Luc chapitre 2, verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit, voyez, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple par habitude... Il vient au temple, poussé par l'Esprit. Alléluia. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, regardez bien, c'est extraordinaire. Il le reçut dans ses bras. C'est pas chouette, ça? Il le reçut dans ses bras, il a pris Jésus dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici !» Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, imaginez Marie qui entend ça, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Vous ne croyez pas que Marie, quand Jésus était en train d'être crucifié, elle a dû repenser à ses paroles qui avaient été données par un homme qui était pieux. Quand on est pieux, on développe un comportement juste, on développe une visibilité spirituelle, une vision spirituelle, on lit la parole et le Saint-Esprit nous avertit. Il y a des gens qui parlent « le Saint-Esprit m'a parlé », mais non, mais c'est clair que c'est... En plus, ils commettent un péché, pas possible, puisque le troisième commandement, c'est « tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, car celui qui prend le nom de l'Éternel en vain ne restera pas impuni. » Il vaudrait mieux la fermer et dire au Seigneur « j'ai à cœur de te dire ça, plutôt que de dire « le Saint-Esprit m'a dit de te dire ». C'est grave. Ne dites pas ça. Il y a des gens, en plus ils disent ça pour « le Saint-Esprit m'a dit de te dire que tu te marieras avec moi ». Vous voulez que je les fasse témoigner, ceux qui dans l'église ont entendu ça, qui sont là, et ceux qui ne sont pas là, parce que bien sûr, on leur a menti. Ça s'appelle comment ça? De dire à quelqu'un, le Saint-Esprit m'a dit de te dire. Ça s'appelle comment? C'est un mensonge, c'est une abomination. Et ne dites pas, ne dites jamais le Saint-Esprit, à moins que vous soyez sûr que ça vienne de Dieu. Voyez, mais les gens, ils ne lisent pas la parole. Ah, ça fait qu'ils prennent le nom du Seigneur en vain, après ils se ramassent les casseroles. Et le problème, c'est qu'ils abandonnent Dieu. Et la piété, c'est les églises rendent un témoignage lamentable. Le Seigneur m'a dit que tu allais guérir. J'ai prié, le Seigneur m'a dit que tu serais guéri. Et la personne, elle est morte. C'est bizarre. Toute la famille a abandonné Dieu. C'est beau, hein? C'est beau. Là, nous voyons quelqu'un, il a vu Jésus 8 jours, un bébé de 8 jours, c'est pas très vieux. Il a reconnu que c'était le sauveur du monde. Mes frères et sœurs, il n'y a pas besoin que les choses soient compliquées. À partir du moment où vous développez cette communion avec Dieu, la crainte de Dieu, un juste, il repousse le mal. Un juste, il ne met rien de mauvais devant ses yeux. Siméon était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Un chrétien, il attend l'enlèvement de l'Église. Il sait que Jésus va revenir vous chercher. Vous le croyez que Jésus va revenir? Vous le croyez? Est-ce que Jésus pourrait revenir en septembre 2017? Un dernier témoignage. Vous me donnez 2 minutes. Je n'ai pas prêché longtemps. Alors, acte. On va prendre... Là, c'était un homme pieux, un juif pieux. Mais la piété et la justice ne sont pas réservées qu'aux religieux. Regardez dans acte au chapitre 10. Je le fais volontairement. C'est une question d'équilibre. C'était un centenier. Un homme, vous voyez, comme un capitaine. Hein. Acte 10. Vous voyez, c'est un centenier. Non, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais lui, il est né dans un foyer chrétien, il a développé cette gentillesse, cette douceur. » Non, c'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai. Acte 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, donc c'est un capitaine, il dirigeait 100 personnes, de la cohorte dite italienne. Donc c'était un soldat qui avait appris à tuer les gens. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Voyez là ce qui le caractérise avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous voyez, toujours des indices quand il parlait de piété et de justice. Tiens, le gars, il donne parce qu'il avait les moyens, et il pouvait le faire. Donc, il avait cette faculté, il priait, il aimait la prière. Quand vous êtes pieux, vous aimez la prière. Si vous faites votre culte, si vous en avez marre au bout de 5 minutes, la piété, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est compliqué ce que je vous dis? Non. Et en plus, voyez au verset 7, dès que l'ange lui avait parlé, il fait partie. Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. C'est formidable quand on est juste et pieux de s'attacher à des gens qui sont pieux. Est-ce que vous aimez vous retrouver avec des chrétiens pieux? Parce que vous savez, le Seigneur Jésus a dit que ceux qui voulaient vivre pieusement seraient persécutés. Et il y a des chrétiens qui sont persécutés par des faux chrétiens. Est-ce que vous le savez? Il y a des vrais chrétiens qui sont persécutés par des chrétiens de nom. Ça va loin cette affaire. En tous les cas, mes frères et sœurs, que vous soyez nés dans un foyer chrétien ou que vous soyez un officier de l'armée qui avait grandi en Italie, certainement peut-être loin de Dieu, eh bien, il avait choisi de marcher dans la piété. Qui ce matin peut dire, moi, je veux marcher dans la piété? Je veux faire partie des justes. Je vais arrêter de magouiller avec mon âme. Je veux tenir ma lampe prête. Tenons une lampe prête. Chrétiens, préparons-nous, car Jésus revient chercher l'Église. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts, mes frères et sœurs? Est-ce que... On va fermer les yeux, on va répondre. Je vais demander à Monsieur de Dieu de choisir des bien-aimés pour la Sainte-Seine. Est-ce qu'on peut lui répondre dans le silence? Est-ce que tu peux te recueillir, mon frère? Ma sœur, Jésus a posé la question, je termine vraiment avec cette question. Avez-vous compris ces choses? Sérieusement, je ne sais pas, moi je vois tellement de chrétiens qui désobéissent. Ce n'est pas une question piège, c'est une question archi sérieuse. Est-ce que vous avez compris cette prédication? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je l'ai mal dite? Est-ce que Dieu va me dire, mais malheur, tu leur fermes la porte? Ou est-ce que la porte est ouverte ce matin pour toi, mon frère? Tu vas prendre le pain et le vin? Est-ce que tu veux le prendre avec une reconnaissance infinie, comme Émilie disait dans sa prière, « Seigneur, merci, merci, merci ». Qu'est-ce que vous pouvez dire à Jésus ce matin pour vous avoir parlé, pour vous remettre à niveau, pour vous remettre sur les rails? Seigneur, oui, je fais partie d'un chrétien, je suis méchant, je suis égoïste, j'aime l'argent, j'aime le plaisir, je préfère mon lit au culte. Tout ça, c'est pas bon. Seigneur, je me remets à niveau. On le fait pour le corps. Oh, je mange trop de charcuterie, j'ai du cholestérol. J'arrête la charcuterie, mais on le fait. C'est bizarre quand on a peur de mourir. Mais là, on devrait avoir encore plus peur de mourir spirituellement. Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous qui êtes, je le dis pour Internet, je le dis pour vous, mais si vous êtes méchant, si vous aimez le mal, si vous parlez mal, si vous êtes égoïste, fanfaron, etc., repentez-vous joyeusement. La repentance, c'est pas une malédiction. La repentance, c'est une immense grâce. Repens-toi joyeusement et règle ce problème ce matin. Alléluia, c'est quelle grâce. Je vais demander aux frères et sœurs de se lever, mais de vous lever avec beaucoup de respect. On offre un culte à Dieu avec crainte et piété. Levez-vous, frères et sœurs, avec bonheur. Priez dans votre cœur, dites-lui, maintenant moi je vous ai parlé de la part de Dieu, maintenant dites-lui, vous savez un mot, que ça, mais pas haute voix s'il vous plaît, ça regarde personne. Dites-lui dans votre cœur ce que vous avez à lui dire, mais dites-le lui avec grâce. Il n'y a que Dieu qui peut entendre des centaines de millions de prières en même temps. Il est tout puissant. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour le pain et le vin, parce que tu nous rappelles que toutes ces victoires et même toute cette piété est recevable à cause de ton œuvre au calvaire. Merci pour ton sang versé. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.